Bonjour, bienvenue à votre émission Parole au présent. Merci pour votre fidélité. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Bonjour, Francine.
Bonjour, Claude.
Alors, nous allons ensemble traiter un sujet un peu spécial ce matin.
Oui.
Disons-le tout de suite, c'est le premier dimanche du carême et la coutume veut que l'on traite des tentations de Jésus. Et c'est un style vraiment, vraiment particulier. Hein. On est dans le monde de l'imaginaire. Est-ce qu'on peut le dire ça tout de suite en partant?
Oui, je pense. Hein. C'est un récit presque de type onirique, hein, un peu comme le monde des rêves, si on veut, avec de la pensée magique. Là. D'ailleurs, les gens vont se souvenir, les pierres changées en pain, du transport instantané, vous voyez. Donc, il faut comme être prévenu de ça, puis écouter avec une oreille avertie, parce que finalement, c'est un récit qui met en scène des tensions que Jésus a vécues certainement tout au long de sa mission.
En effet, c'est situé au début de l'œuvre de Luc. C'est au chapitre 4 et j'en fais lecture à l'instant même. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit-Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où, pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le diable l'amena alors plus haut. Il lui fit voir en un seul regard tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant alors épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Francine Robert, on est vraiment en présence d'un récit d'un genre plutôt surréaliste, donc qui soulève plein de questions.
Mm-hmm.
Bon, l'affrontement avec le diable, il va falloir qu'on définisse ce terme-là. Est-ce qu'il existe et qu'est-ce qu'il représente? Et peut-être qu'on pourrait, dans un premier temps, se parler là-dessus, quoi, sur les termes utilisés.
Oui, et puis ça aidera peut-être à répondre à une autre question que les gens se posent parfois. C'est est-ce que Jésus pouvait être vraiment tenté? Si on définit mieux ce que le diable représente dans le récit, ça va aider, je pense, à répondre à cela. C'est sûr que si on mettait ça en image, je pense qu'il y a des gens de ma génération qui sont à l'écoute, qui auraient de quoi illustrer ce personnage du diable, parfois un peu ridicule avec des cornes, une belle queue. Mais vous voyez, c'est assez suggestif parce que comme dessin, ça permet finalement de projeter des craintes, des expériences souterraines, je dirais, de l'être humain. Et ça peut être intéressant de penser que Jésus est présenté dans une scène où lui aussi doit se battre avec des forces souterraines comme ça. Vous avez dit « diable », Claude, et vous avez lu dans le texte « le diable » tout au long. Les gens qui suivent dans leur lectionnaire seront peut-être étonnés parce que le lectionnaire a traduit partout par « démon ». Alors, j'ai remis diable parce que les démons dans les évangiles, ça n'est pas vraiment le diable, c'est associé à des esprits mauvais. Hein, ce sont des malades, des possédés qui sont captifs des esprits mauvais. C'est ça les démons. Alors que le diable ou le Satan, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, ça représente l'adversaire de Dieu qui pousse les gens à prendre des décisions vers le mal plutôt que vers le bien. Donc, c'est pas tout à fait la même chose.
Mais vous dites, c'est ça, mais dans le texte de Luc, c'est vraiment, c'est diabolos.
C'est diabolos qui est tout utilisé, le long, là. Oui.
C'est pas, autrement dit, c'est pas votre choix à vous, c'est le choix de Luc.
Tout à fait, c'est ça. Mm-hmm. Et donc, j'ai remis la lecture que vous avez faite, j'ai remis le mot diable, mm-hmm. même si tout le reste vient du lectionnaire.
Donc, ça vient d'un mot grec.
Oui.
Ou de deux mots grecs, en fait. Il y a diabolos.
Oui, c'est mm-hmm. ça. C'est la combinaison d'un verbe et d'un préfixe, dia. Dans le grec classique, hein, c'est pas un mot religieux d'abord. C'est un verbe, baleine ou ballo, qui signifie lancer, placer, jeter. Et dia, c'est donc jeter à travers ou jeter de part et d'autre. Hein. C'était, dans le grec classique, un adjectif qui signifiait ce qui désunit, hein, ce qui divise. Et on utilisait le nom pour, par exemple, pour désigner un calomniateur, hein, quelqu'un qui calomnie une autre personne de manière à introduire la haine ou l'envie entre deux personnes.
C'est ça, qui sème la division.
Voilà, c'est celui qui sème la division, exactement. Alors, bien sûr que ça se prêtait bien à une utilisation au plan religieux. Ça devient le personnage qui met la division entre Dieu et quelqu'un, d'où notre compréhension du diable comme étant celui qui nous pousse au mal. Et d'ailleurs, c'est ainsi que le judaïsme de culture grecque l'a compris aussi. Et enfin, plusieurs vont se souvenir du fameux récit du chapitre 3 de la Genèse où le serpent dit à Ève de manger le fameux fruit de l'arbre défendu. Bon. Le judaïsme du monde grec, à l'époque donc de Jésus et du Nouveau Testament, a déjà associé le diable et le serpent de ce fameux récit. Hein. Pour eux, le serpent qui introduit l'envie, hein, qui détruit la confiance du couple humain envers Dieu, le serpent qui fait cela, il fait l'œuvre du diable. Il fait l'œuvre du diviseur, il sépare.
C'est ça. Donc c'est ça. Le serpent, au début de la Genèse, là, il est vu, c'est une image du diviseur, de celui qui divise, même à l'intérieur du couple, hein. Il y a une division
oui,
à l'intérieur
plus loin,
du couple.
Effectivement.
Puis aussi, ça partage Dieu par rapport à...
C'est ça. Ça a essentiellement ça pour but, de séparer les humains de Dieu. Mm-hmm. Et ça va nous servir un peu plus loin parce que Luc a introduit juste avant le récit des tentations, donc entre le récit du baptême de Jésus et le récit des tentations, qui se suivent dans Marc et dans Matthieu, Luc a introduit une longue généalogie de Jésus. Et il fait remonter cette généalogie, il part de maintenant, d'aujourd'hui, Joseph, fils de, en remontant, et il fait remonter la généalogie jusqu'à Adam. Alors, du coup, c'est comme si Jésus devenait une figure du nouvel Adam. Vous voyez, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la tentation d'Adam et Ève dans la Genèse, parce que c'est celle-là que Jésus va affronter, finalement. Alors, donc, ça, c'est pour le mot « diable ». L'autre mot que Matthieu utilise aussi dans le récit des tentations, c'est le « Satan ». C'est un mot que Luc connaît aussi. Et celui-là aussi, je pourrais en parler rapidement, parce que ça va revenir dans le récit de la Passion de l'Évangile de Luc, lorsque Luc va dire que le Satan est entré dans Judas pour qu'il trahisse Jésus, vous voyez. Là, le Satan, c'est un tout petit peu dans le Premier Testament, et particulièrement dans le livre de Job, au tout début du livre de Job, le Satan, c'est celui qui vient tester la foi de Job pour Dieu, vous voyez. Et il vient donc vérifier la qualité de la foi de Job. Il vient la mettre à l'épreuve. Et donc, il va devenir finalement l'adversaire des humains avec le temps. Il va être considéré comme l'adversaire au même titre que le diable, puisqu'il fait rater des tests. Il nous fait passer des mises à l'épreuve trop difficiles en espérant que les gens vont perdre la foi ou vont quitter leur relation à Dieu. Donc, pourquoi j'en parle? C'est parce que ça éclaire le mot qu'on traduit ici par tentation. Hein? Jésus tenté au désert, et à la fin du récit, le diable ayant épuisé toute tentation. Ce vocabulaire-là, c'est le vocabulaire grec de la mise à l'épreuve. Pour nous tenter, c'est présenter quelque chose de bon, puis qu'on doit le refuser, là. Voyez? Alors, c'est trop étroit comme perception. Le vocabulaire grec, c'est la mise à l'épreuve. Par exemple, dans Luc, à la Passion, Jésus, à la dernière scène, va dire à Pierre, « Le Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Et moi, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Hein, le Satan vous a réclamé pour vous faire passer une épreuve que vous ne réussirez pas à traverser. Et moi, j'ai prié pour que tu la traverses. Vous voyez, donc, c'est le même vocabulaire que nous, on a traduit par tentation. Là, c'est la mise à l'épreuve et la tentation, en grec, ça va ensemble. C'est l'idée de faire passer un test très difficile pour vérifier la qualité.
Bon, en somme, ce que Luc nous dit, c'est que Jésus a été tenté.
Il a
subi cette épreuve.
Au sens où il a été mis à l'épreuve, mm-hmm. C'est ça. Et non pas au sens où on lui a proposé de manger du chocolat pendant le carême.
Non, non.
Vous voyez? Pour nous, la tentation, c'est juste résister à quelque chose de mal. Si ça n'était que cela, ça n'aurait pas de sens de la dire dans le Notre Père. Dieu ne nous propose pas, ne nous induit pas au mal, ne nous soumet pas à la tentation, c'est bien, ne nous soumet pas à des épreuves trop difficiles, ne nous fait pas passer des tests trop difficiles. Voyez-vous, ne nous demande pas des preuves trop exigeantes. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est exactement ça qu'on a dans le récit. La troisième tentation, Jésus va répondre au diable, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Eh bien, Claude, ici on a le même verbe « mettre à l'épreuve » qu'au début du récit, Jésus était tenté par le diable. Vous voyez, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne demanderas pas des preuves. Alors, ça éclaire peut-être la question, est-ce que Jésus pouvait être vraiment tenté? Mm-hmm. Vous voyez, si on la comprend comme est-ce que Jésus pouvait être porté au mal ou enclin au mal, on ne sait pas quoi faire avec ça. Et donc, ce récit perd de sa pertinence. Tandis que si on la comprend comme étant la mise à l'épreuve dans des choix importants, être testé, pour savoir si on va faire les bons choix, des choix qui portent sur les modalités de la mission, sur les moyens de la mission. Jésus lui-même va constater qu'il a été mis à l'épreuve. Jésus lui-même va appeler Pierre Satan lorsque Pierre lui propose d'éviter la passion. Vous voyez? Donc, oui. Est-ce que Jésus pouvait être tenté? Oui. Est-ce qu'il pouvait être mis à l'épreuve? Oui. En tout cas, c'est clairement ce que les évangélistes pensent, eux qui pourtant affirment la divinité de Jésus.
Maintenant, Francine Robert, pour avancer justement tout à fait dans la ligne de ce que vous dites, si on précisait l'épreuve, en quoi consiste-t-elle cette épreuve? Quel est ce test finalement
Jésus doit affronter?
C'est ça.
Oui, comme s'il était d'ailleurs ce test organisé conjointement par l'Esprit, parce que je rappelle que c'est l'Esprit qui a envoyé Jésus au désert,
ouais,
quasiment comme pour être confronté là. Alors, c'est la piste que je suggérais un tout petit peu lorsque j'ai parlé d'Adam. Je pense que l'épreuve, l'ensemble de l'épreuve, la mise à l'épreuve de Jésus ici, c'est une tentation propre à un fils de Dieu. La tentation d'un fils de Dieu, c'est d'agir en fils de Dieu, c'est-à-dire d'agir comme un Dieu, finalement. Et je vous rappelle que la première tentation, le diable commence bien sa phrase en disant « Si tu es le fils de Dieu, dis à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Donc, Jésus agira-t-il en fils de Dieu ou en fils d'Adam, voyez? Et c'est pourquoi je pense que ce texte est tellement surréaliste, surréaliste, c'est-à-dire vraiment pas réaliste, parce qu'il met en scène le fonctionnement de la pensée magique. Qu'est-ce que c'est la pensée magique? C'est ce que je veux, je peux l'avoir tout de suite, et tout ce que je veux, tout et tout de suite, voyez? Alors, si on révisait rapidement les trois tentations, tu as faim, tu n'as qu'à te servir, tu n'as qu'à ajuster instantanément les choses, les objets devant toi, la nature, pour répondre à tous tes besoins. Hein. Pourquoi est-ce que tu ferais le détour par un laborieux travail de semaille, de récolte, les risques de la météo, et puis collaborer avec les autres, et puis avoir besoin de ceux qui vont moudre le blé pour faire le pain, et ceci pour répondre à l'ensemble de tes besoins. Pourquoi aurais-tu besoin des autres et aurais-tu besoin...
C'est ça.
D'avoir des procédures réelles alors que tu peux dire à la pierre de devenir du pain.
C'est ça. Pourquoi faire tout le processus nécessaire pour se nourrir, finalement? Tu peux régler ça en criant ciseaux, quoi. Tout de suite.
Ouais.
Tout de suite.
Alors, deuxième tentation. Tu veux changer le monde? Tu veux que le règne de Dieu arrive? Tu veux combler de bien les pauvres, comme on disait la semaine dernière?
On peut faire ça tout de suite.
Ben, tu peux faire ça tout de suite. T'as rien qu'à prendre le pouvoir sur les royaumes, les sociétés, dominer les gens pour leur plus grand bien, hein, c'est sûr. Tu pourrais être un dictateur éclairé. Pourrait-on dire. Et
puis quand on regarde dans l'histoire des civilisations, il y en a quelques-uns comme ça qui ont voulu régler très vite cette question-là.
Oui, mais avec les meilleures intentions, parfois, hein, pour imposer la justice, il y a une ironie sociopolitique de Luc que je signale à la dernière scène. Luc va dire, vous savez, les chefs des nations dominent sur les nations et ils se font appeler bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous. C'est ça la tentation ici, au fond. Sois donc un dictateur éclairé, de sorte que on n'a pas besoin de passer par une organisation laborieuse de société. On n'a pas besoin d'éduquer les gens à être responsables, à aimer les autres, à partager avec les pauvres. T'as pas besoin de ça. Pensée magique.
Et la troisième tentation, si tu veux te faire reconnaître comme fils de Dieu, on va régler ça vite. Hein?
Tu demandes à Dieu une démonstration, une preuve. Tu mets donc Dieu à l'épreuve, hein? c'est ça, là, on retrouve notre vocabulaire. Et comme ça, ça va montrer à tout le monde que Dieu est de ton côté. Hein? Pourquoi est-ce que tu risquerais de ne pas être cru toi-même? Pourquoi est-ce que tu n'imposerais pas Dieu par la toute-puissance de Dieu? Alors, vous voyez cette pensée magique. C'est une formule psychologique éloquente qui la résume bien, je trouve. Hein, je veux tout et tout de suite. Hein. Ça, je signale en passant que c'est un commentaire qui s'inspire en bonne partie d'un petit livre très intéressant de Bernard Ray sur les tentations et le choix de Jésus dans la collection Lire la Bible chez Cerf. Alors, ce réflexe, et là je puise un peu à la psychologie, ce réflexe « je veux tout et tout de suite », nous l'avons tous connu, il est enraciné dans la première expérience du nouveau-né. En tant qu'on est dans le ventre de notre maman, tous nos besoins sont satisfaits, ils n'ont même pas le temps de devenir besoins ressentis. Alors, dès qu'on vient au monde, on supporte très mal le délai entre le besoin que l'on a et le moment où on va recevoir la satisfaction. Alors, j'ai faim, je hurle.
C'est ça.
Parce que ça m'est insupportable. C'est d'ailleurs extrêmement insécurisant pour le nouveau-né que ses besoins ne soient pas satisfaits tout de suite.
Dans l'immédiateté,
oui,
quoi.
Oui, c'est très insécurisant, il connaît pas ça. Donc, ce n'est pas que frustrant au sens, c'est pas parce que le bébé a mauvais caractère. C'est comme cela, on vit cela dès la naissance et on doit apprendre à vivre avec cette frustration-là toute notre vie, finalement. C'est ça, devenir adulte, hein, c'est d'avoir appris, d'avoir enfin compris.
Apprendre à composer.
Et accepter.
C'est ça, à composer. Poser avec le temps, quoi.
Oui, avec la réalité, savoir que la réalité va pas faire mes quatre volontés et que les autres vont résister à mes désirs sur eux et que je dois consentir à la collaboration, à des délais et que bien des choses que je souhaite resteront à jamais impossibles. Alors, ça, c'est devenir adulte. Alors, une telle manière de lire le récit de Luc, hein, ça nous montre que les options de Jésus, ça s'inscrivent, je dirais, dans une relation adulte avec la réalité. Il doit, son test, sa mise à l'épreuve, c'est renoncer à un désir d'immédiateté, si on peut le dire ainsi. Alors, c'est pourquoi, je pense, Luc a introduit juste avant la généalogie de Jésus qui fait remonter jusqu'à Adam, fils d'Adam, fils de Dieu. Hein, pour que on reconnaisse là la tentation d'Adam et de tout humain. Hein, qu'est-ce qu'il dit le serpent? Vous serez comme des dieux. Voilà. N'attendez pas de Dieu qu'il vous donne quelque chose. Prenez-le. Hein? Il introduit la méfiance. Vous savez, si Dieu vous a donné quelque chose, en fait, il vous a pas tout donné. Hein? Il a peur de vous. Il est jaloux. Donc, prenez et servez-vous. Méfiez-vous du don. Hein? Devenez tout puissant et servez-vous vous-même. Et donc, ça casse, vous voyez, la relation de confiance. Vous n'aurez plus besoin de lui, vous n'aurez plus besoin de patience non plus. C'est ça, échapper à la condition humaine. C'est échapper à la nécessité d'avoir besoin des autres et de recevoir des autres. Alors, si Jésus est présenté comme le nouvel Adam, vous voyez pourquoi je disais tout à l'heure, il est tenté vraiment comme fils de Dieu. Il pourrait peut-être lui échapper à cette condition humaine où il doit avoir besoin des autres pour dire, ben non, fils de Dieu, je peux m'en tirer tout seul. Vous voyez? Alors, le diabolos, ici, on pourrait en faire une lecture psychologique dans le sens de ce qui vient d'être dit, ça peut être le diviseur, on disait c'est celui qui sépare, qui divise, ça peut être comme une division intérieure. Hein. Lorsque j'ai en moi des voix qui disent des choses contraires, et c'est pas toujours évident laquelle est la bonne à suivre au point de départ, on n'est pas devant le mal absolu, on est simplement devant des tensions internes qui sont difficiles à négocier finalement. Hein. Et Jésus est présenté, tout fils de Dieu qu'il soit, comme n'étant pas épargné par ces tensions internes. Et on a beau se dire que, il vient de Dieu, mais justement, c'est peut-être ça la tentation, est peut-être pire. Au lieu de se dire qu'il pouvait pas être tenté, moi je pense que peut-être on pourrait se dire qu'il est plus tenté que tout le monde, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus grand que cette mission de faire reconnaître Dieu et le règne de Dieu? Alors, est-ce que la fin ne justifie pas les moyens? Est-ce que pour une si belle cause, on pourrait pas prendre les moyens les plus forts? Hein? Pourquoi pas finalement obliger les gens à partager au lieu de se contenter de crier dans une plaine « Heureux vous les pauvres, le règne de Dieu est à vous ». C'est pas très puissant ça comme moyen, vous voyez? Alors, si Jésus doit faire des choix, je dirais que ce sont des choix sur une crête étroite, très reliée à la mission de l'avènement du règne de Dieu. Comment doit-il faire advenir le règne de Dieu et se situera-t-il lui-même comme étant capable de le faire par lui-même ou en consentant à recevoir le don de Dieu, le don des autres aussi?
Est-ce qu'on aborde tout de suite la fin du récit? Hein? Alors, ayant épuisé toutes les formes de tentation, bon, le diable s'éloigne de Jésus jusqu'au moment fixé.
Ben oui, alors c'est nous, toute tentation, ben oui, si c'est la tentation de la toute-puissance, c'est quand même utile de dire qu'il n'y a plus d'autres tentations. C'est cette finale, elle est propre à Luc, hein? C'est finalement... une victoire qui n'est pas la dernière victoire. Hein. On pourrait dire que Jésus a peut-être gagné cette bataille, mais il n'a pas gagné la guerre. Hein. Il reste un autre combat à livrer. Hein. Le diable le quitte jusqu'au moment fixé. C'est pas du tout la belle finale de Matthieu, là où les anges viennent le servir.
Ah,
c'est pas ça
du tout. C'est vrai que c'est donc différent.
C'est une partie remise. C'est à peine une pause avant de reprendre le match. Hein. Et le moment fixé, tous les exégètes s'entendent à dire ici que le moment fixé, c'est la passion. Hein. Quand Luc va dire « Et Satan entra en Judas », pour qu'il le livre. Alors, c'est donc le chemin, un récit qui nous tourne vers Pâques, c'est déjà le chemin qu'on entreprend en début de carême. Je trouve que c'est un bon choix, le récit des tentations, pour commencer le carême.
Oui.
En tout cas, particulièrement dans Luc, où le chemin de Jésus vers Jérusalem, c'est un chemin de 10 chapitres, hein, et on aura l'occasion de revenir sur cet aspect du chemin. Et tout au long de ces 10 chapitres, chapitre 9 au chapitre 19, Jésus doit refaire des choix, doit consentir à l'échec, consentir à ne pas se donner lui-même la victoire, finalement, à ne pas prendre de force ce que les hommes ne veulent pas lui donner. Vous voyez, il ne pourra pas les contraindre à croire en lui, et il ne donnera pas non plus à lui-même ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire la victoire sur la mort. Donc, choisir de marcher vers Jérusalem, c'est aussi refaire les choix du premier récit des tentations. Et je signale rapidement, Claude, que ces 3 tentations au désert, Luc va les reprendre de façon très originale lorsque Jésus est en croix. Bon, les gens se souviennent des moqueries des chefs religieux, hein. Sauve-toi toi-même, si tu es le Christ, le Messie de Dieu. Cela, on l'a chez Marc et Matthieu. Et on voit bien que c'est la même chose. Sauve-toi toi-même, n'attends pas qu'on te donne, mais fais-le, sois tout-puissant, quoi. Et Luc va ajouter ou mentionner deux autres moqueries qu'il est le seul à présenter. Celle qui vient des soldats romains, hein, sauve-toi toi-même si tu es le roi des Juifs, qui est proche de la deuxième tentation, hein, domine sur les royaumes, sauve-toi par toi-même, donne-toi tout ça. Et celle d'un des deux malfaiteurs crucifiés avec lui, sauve-toi toi-même et nous aussi. Hein. T'es venu pour sauver les hommes, pour nous donner à manger, pour libérer les opprimés. Eh bien, si tu avais choisi des bons moyens, tu serais pas là en train de crever et tu pourrais nous sauver, nous aussi. C'est une tentation dont on mesure pas bien, hein, la dureté. Et je conclue là-dessus en disant que là aussi, Jésus va faire les mêmes choix et il va recevoir, dans ce moment de détresse, le témoignage de l'autre crucifié, qui va reconnaître en lui qui ne peut rien se donner à lui-même, l'autre crucifié va reconnaître en lui la capacité de le sauver, lui. Hein? Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Vous voyez, c'est assez extraordinaire. Jésus reçoit de l'autre crucifié cette marque de confiance et lui-même consent, bien sûr, dans la confiance à recevoir la vie de Dieu.
Vous venez d'entendre Francine Robert, professeur à l'Institut de pastoral des Dominicains, à la technique Alain Primo. C'est Claude Julien qui vous parle et qu'il vous souhaite un très bon week-end à notre antenne et qui vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.